Bonsoir, bonjour à tout le monde là-bas. Je m'appelle Alessandro Lunibravi. Je suis le Managing Director et Team Representative de l'équipe F1 Stake F1 Team Kicksaber. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Merci, merci beaucoup. Il me fait plaisir de vous voir. C'est un honneur de pouvoir vous accueillir. Et je me doute que les semaines sont bien remplies pour vous en vue du calendrier actuel. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien commencer tout au début, même avant votre carrière dans le sport, étant donné que de base, vous êtes plutôt dans le milieu juridique, étant vous-même avocat à la base, si je ne me trompe pas.
J'ai commencé dans le sport jusqu'après l'université. Je suis devenu avocat dans l'année 99. Donc, vous comprenez que je ne suis pas plus jeune. Et j'ai commencé comme avocat des équipes de pilotes, de promoteurs. Donc, j'ai commencé à travailler un peu dans ce milieu. Et en même temps, j'étais dans les premières années, les premières 3 années avec Autosprint, que c'est le plus important magasin de motorsport en Italie. Et j'ai suivi la F1 pour eux depuis l'année 2000 à 2003. Et ça, il m'a permis d'être en contact avec plusieurs écuries et aussi d'aider les jeunes pilotes au niveau légal de progresser à partir de karting jusqu'à la F1. Je me souviens bien que j'ai commencé avec un pilote italien comme manager, que c'est Gian Maria Bruni, il est encore avec moi après quasiment 25 ans. Donc, ça veut dire que les relations personnelles aussi dans ce milieu sont très importantes et on travaille beaucoup avec un rapport fiduciaire, surtout entre pilote, management et pilote écurie. Après cette première expérience, j'étais team manager d'une équipe en Formule 3000 internationale au début de ma carrière. Donc, j'ai toujours combiné mon position comme avocat, donc tout ce que c'est les aspects légaux, mais aussi avec le côté managérial dans une équipe. J'ai fait 2 années en Formule 3000 internationale et après, j'ai eu la chance depuis 2003 et 2005 de devenir le directeur général du championnat du monde de rallye en Italie. Et donc d'être en tête à l'organisation de la première 2 éditions de championnat du monde de rallye en Italie, en Sardaigne, après plus de 30 ans que l'étape italienne il était à Sanremo. Et c'était une expérience très importante d'être au même temps dans le championnat du monde de rallye comme responsable pour l'organisation et aussi j'ai suivi beaucoup des autres tu sais, courses de championnat du monde de rallye comme représentant de la course italienne. Donc, c'était une expérience très formative pour moi. Et après ça, après 2005, j'ai créé mon équipe en GP2 avec deux partenaires pour 3 ans et j'ai travaillé là-bas comme team principal et managing director. Dans toute cette expérience, je n'ai jamais abandonné le côté légal. Donc, j'ai continué à être avocat pour surtout des pilotes ou des écuries dans d'autres catégories et donc continuer à faire mon expérience légale, pas seulement dans le motorsport, donc Formule 1 et catégorie junior, mais aussi par exemple dans le MotoGP, parce que j'étais pour plusieurs. Quasiment 10 ans, l'avocat de Andrea Dovizioso, depuis son début dans la catégorie 125 cc jusqu'à le contrat Ducati en 2010, et en même temps d'Andrea Iannone et des autres professionnels là-bas. Après, en 2008, je suis allé travailler avec le groupe Fiat Alfa Romeo et j'ai géré l'équipe Alfa Romeo dans le championnat du monde de tourisme, que c'était un joint venture entre Fiat Group et une équipe privée en technologie. Et je me suis occupé là-bas comme general manager de toutes les activités de N-Technology, que c'était dans le championnat du monde rallye, dans le championnat du monde tourisme, surtout avant avec Alfa Romeo, après avec Honda, et dans l'organisation de championnats comme la Formule Master, les autres. Et après ce moment, en 2010, j'ai travaillé, et après ça, pour 6 années, quasiment 7 années, avec Jean-Todd et Nicolas Todd. Donc, j'étais allé à travailler avec eux à Genève, et là-bas, je me suis occupé de toutes les activités business. Donc, avec Nicolas, du management pilote, parce que comme road management, on avait plusieurs pilotes, Felipe Massa, Pastor Maldonado, Jules Bianchi, Charles Leclerc, James Calado, et aussi de jeunes pilotes dans les catégories juniors, et aussi des autres activités, comme par exemple Art Grand Prix, qui c'est une équipe qui est maintenant dans toutes les catégories de junior Formule 1, et toujours comme avocat, mais aussi dans le côté managérial. Et c'était là-bas que j'ai connu Frédéric Vasseur, qui était un des associés de Nicolas Todd chez Art Grand Prix. Et pour lui, j'étais avocat, et pas seulement pour Art Grand Prix, mais aussi pour Spark, qu'il a créé, que c'est la société qui donne tout le châssis depuis les premières années pour la Formule 1. Et maintenant pour aussi Extreme et Extreme H. Donc là-bas, je me suis occupé depuis le début de la naissance de la Formule E pour Spark, et de toute la partie, pas seulement contractuelle, mais aussi gestionnelle, à côté de mon travail pour la famille Todd. Dans cette expérience, par exemple, avec Road, je me suis occupé comme avocat pour l'ACO, donc l'Automobile Club de l'Ouest, et toute la partie contractuelle et les relations entre le promoteur, l'ACO, et les circuits pour le championnat du monde d'endurance. Et en même temps, on a lancé en kart Art Grand Prix. Donc, j'étais moi responsable comme CEO pour Art Grand Prix en karting, qui après, il est devenu, avec l'acquisition que nous avons fait, Birel Art, parce qu'on a acquis Birel, qui c'était le deuxième plus grand constructeur de karting au monde. Après l'expérience avec Jean-Todd et Nicolas Todd en 2010, j'ai décidé de devenir indépendant, de créer ma propre société de management. Et mon premier pilote, que c'est toujours plus qu'un pilote pour moi, c'est un ami, c'était Stoffel Van Dorn. Donc je connais très bien la Belgique. Okay. Stoffel, il vient de Kortrijk, donc de la partie flamande. Et bon, on a fait notre 2 années chez McLaren comme pilote F1, et après, je l'ai suivi toujours dans tout le développement de sa carrière. Et je suis très attaché à Stoffel parce que c'est la personne la plus agréable que j'ai connue dans cette ambiance, et c'est un gros professionnel. Et un pilote que j'estime énormément, et je pense qu'il n'a pas eu la grosse chance parce qu'il a fait 2 années chez McLaren, dans les années les plus pires pour l'équipe, la première année, 2 années Honda. Mais c'est un personne très important pour moi aussi parce que c'était mon premier pilote quand j'ai lancé ma société. Le deuxième, c'était Robert Kubica, que dans ce moment là-bas, il était un rallye, et moi, avec lui, j'ai commencé le projet parce que j'étais envie de le ramener en F1. Et ça, c'était pour moi un projet extrêmement important parce qu'on était capable, après 8 ans, de rentrer en F1 avec Robert. Avant, comme troisième pilote Williams, et après, comme pilote officiel. Et donc, c'était un travail énorme aussi pour trouver toutes les ressources, le support financier pour ce projet. Et moi, je me suis occupé pour lui, par exemple, de trouver Orlen, que c'est encore un sponsor très important en F1, qui a suivi Robert. Ils suivent Robert toujours dans ses activités. Et j'ai commencé avec aussi deux jeunes pilotes en karting comme manager, à côté de ces deux professionnels, Gianmaria Bruni. Un, c'est Victor Martin, qui actuellement il est en Formule 2 et c'est parti du programme Alpine. Et l'autre, c'est Christian Lungard, qui maintenant il est en IndyCar avec un rallye Letterman Lanigan. Mais tout de suite, après, je veux dire, moi, 6, 7 mois que j'ai lancé mon société de management pilote, Frédéric Vasseur, il m'a demandé de le suivre chez Sauber quand il a rejoindre Sauber le 1er juillet 2017. Et donc, j'ai commencé avec lui le 1er juillet 2017 ici comme Group General Counsel pour toutes les équipes du groupe. Donc, Sauber Motorsport, c'est l'équipe F1, et Sauber Technology, qui c'est la société d'ingénierie de groupe, qui sont devenus de plus en plus importants. Et j'ai progressé comme Group General Counsel. Je suis devenu aussi membre de tout le board, de toutes les sociétés. Et après 3 années passées, Frédéric Vasseur a demandé de devenir aussi Managing Director de toutes les sociétés du groupe. Et à partir de janvier l'année passée, de devenir aussi team representative avec le nouveau management d'Andreas Seidel comme notre CEO et l'arrivée de Audi, que je me suis occupé. Donc maintenant, je couvre cette double position de managing director, que c'était plutôt lié et connecté au travail à l'usine pour tout qu'est-ce que c'est la gestion de la support business function. Et de l'autre côté, je représente l'équipe en piste, un rôle que c'est un peu équivalent à celle de team principal, mais plutôt sur moins sur la partie technique, plutôt sur la partie de gestion, de coordination et surtout de relation avec la Formule 1, donc le promoteur, la Fédération internationale d'automobile, notre partenaire et le média. Donc c'est un rôle légèrement différent. Parce qu'on a une organisation en piste où il y a 3 personnes. Un, c'est Thierry Poujolas qui s'occupe comme Head of Track Engineering and Operation de la coordination de la partie technique, donc de l'ingénierie en piste. L'autre, c'est Bert Zender, qui c'est le Sporting Director, donc s'occupe de la partie sportive, veut dire tous les règlements et donc les relations avec la FIA pour la gestion de la course au niveau de réglementaire, et moi comme team representative. Donc on gère tous ensemble toutes les opérations côté piste. Donc je pense que j'ai touché plusieurs positions et responsabilités dans le motorsport, mais toujours j'ai combiné la partie légale comme avocat qui reste mon, c'est mon, je voudrais dire, un peu activité spécifique, vu de toute l'expérience faite dans ce milieu. Et de l'autre côté, la partie managériale qui s'est développée de plus en plus. Et maintenant, il est devenu la partie plus importante de mon travail dans l'équipe F1.
On peut, enfin, bravo, waouh, on peut juste dire waouh à une telle carrière, une telle longévité, les personnes que vous avez rencontrées, il y a quand même de très très belles personnalités très importantes qui ont d'une façon ou d'une autre marqué le sport, et notamment notre Stoffel national. Ça fait plaisir d'entendre ça, surtout qu'on a eu l'occasion de parler avec lui auparavant aussi. J'ai une question en deux temps par rapport à tout ce que vous avez dit, parce qu'il y a deux choses qui ressortent beaucoup. Il y a bien évidemment votre amour pour le sport moteur, que ce soit la F3 ou la F3000 ou la F2, la Formule 1, le rallye ou quoi que ce soit, et tout l'aspect juridique, tout l'aspect avocat. Et j'aimerais bien commencer par cet aspect, enfin, par recommencer avec votre formation et vous demander, il vient d'où votre amour pour le droit? Pourquoi est-ce que vous êtes devenu avocat? Pourquoi cette vocation-là et pas une autre?
Je suis devenu avocat pour une chose qui m'a touché énormément. C'était l'année 92. Donc moi, j'étais dans mon dernière année au lycée classique en Italie, donc école supérieure. Et en Italie, il avait deux épisodes très graves parce qu'il avait deux attentats en Sicile. là, le mois de mai 92, contre le très connu juge Giovanni Falcone. Et après, le 19 juillet, avec le prosecutor Paolo Borsellino. C'était les deux assassinés par la mafia en Italie. Ils m'avaient touché énormément. Et donc, moi, mon rêve là-bas, c'était de travailler à Palermo dans la direction investigative anti-mafia, de travailler au tribunal comme juge. Donc, j'ai commencé à étudier jurisprudence, donc en Italie, dans une université très importante pour les études légales. Et je fais mon parcours comme avocat. Mais en même temps, j'étais énormément passionné de l'automobile, du sport automobile, parce que par hasard, moi, je viens d'un petit village en Italie qui s'appelle Passignano sul Trasimeno, 2000 personnes, très petit. Mais dans ce village, on avait une équipe F1 dans les années, fin de l'année 80. Elle s'appelait Coloni F1 Team. Elle était en F1 de l'année 90, 87, depuis l'année 91. Dans l'année 99, on avait aussi un pilote de la Belgique, Bertrand Gachot. Et donc, je suis né, ma maison, la maison de mes parents, c'était à 500 mètres de l'atelier Coloni F1. Donc, moi, dès quand j'étais petit, j'ai eu la chance de rêver, hein, de regarder ça. Et en même temps, par 5 km de la maison, il y avait un circuit, l'Autodromo di Maggiore. Donc, pour moi, le dimanche, samedi et dimanche, j'étais toujours à ce circuit pour regarder les courses automobiles. Et quand j'avais la chance, j'étais chez Coloni. Je me souviens très bien que j'avais l'école tous les jours jusqu'à vendredi, toute la journée. Donc, le samedi matin, j'étais libre. Et je suis allé toujours là-bas chez Coloni. Coloni me dit toujours, bon, pour regarder les voitures, tu dois avant gagner. Donc, tu dois nettoyer l'atelier. Quand tu as terminé, tu viens, tu peux regarder les voitures. J'ai passé toujours le samedi à faire ça. Mais c'était une expérience formidable que c'est sûr, il a augmenté ma passion pour le sport automobile. Donc, quand je suis devenu avocat, j'ai commencé à travailler, mais j'ai toujours essayé de combiner ma passion avec ma profession. Et c'était par hasard que je suis allé à travailler dans un cabinet d'avocats très important. Et on s'avait occupé de procès Senna, de l'appel de procès Senna. Et donc là-bas, je ne sais pas pourquoi, j'ai recommencé à aller dans les circuits. Et j'ai connu plusieurs personnes, pilotes. Je devais penser qu'au début des années 2000, les pilotes n'avaient pas une structure légale d'assistance. C'était tout basé un peu sur, tu sais, pas de relation vraiment bien structurée. C'était quasiment en exception d'avoir de contrat par écrit. Mais le monde de l'automobile, c'était dans un train de développement extrêmement important. Et moi, j'ai commencé à travailler avec les pilotes qui arrivaient de karting. Et j'ai eu la chance de commencer dans l'année 2000, quand il avait une nouvelle catégorie, la Formule Renault 2000, qui était dans ce moment extrêmement important. Et il avait beaucoup, beaucoup de pilotes qui venaient de l'étranger et qu'il avait besoin un peu d'avoir d'assistance légale pour être protégé vis-à-vis des équipes européennes. Et moi, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à travailler pour les pilotes et pour des sociétés anglaises de management pilote qu'il avait de pilotes en Italie, parce que le championnat italien de Formule Renault et de litres, c'était le championnat le plus important. Et après, je ne sais pas pourquoi, ils ont apprécié mon travail. Et de là-bas, je pense que je n'ai pas changé mon attitude. Je suis passionné, mais je pense que je prends mon travail très sérieusement. C'est extrêmement important d'être dédié 100% à ce travail, de le faire avec grande passion, mais aussi avec une rigueur morale très importante. Et j'ai eu la chance, j'étais très chanceuse de connaître des personnes ils m'ont donné l'opportunité de progresser, ils m'ont donné la chance de travailler sur des projets extrêmement importants. Toujours, c'est un peu une chose qui se répète dans ma carrière, toujours dans un startup phase. Je me souviens quand on a commencé l'organisation du championnat du monde de rallye en Italie, on a changé complètement la structure, moi, de championnat du monde en Italie. On est passé de Sanremo à faire le championnat dans la Costa Smeralda, à Portocervo, en Sardaigne. On a fait un accord extrêmement important avec Colony Capital, qui c'était un fonds d'investissement de Tom Barrack, américain, qu'il avait acheté de l'Aga Khan Kaimi, la Costa Smeralda. Et on a créé vraiment un événement. C'était la première fois qu'on a introduit ce qu'on appelle maintenant le format Margherita dans le championnat du monde de rallye. Et il est devenu plus spectaculaire. On avait la première fois des étapes spéciales en direct live dans la télévision avec une production télé vraiment propre. On a créé un très grand événement, pas seulement sportif, en Sardaigne sur 3 années. Et après, par exemple, j'ai fait mon équipe en GP2. J'avais dans l'équipe comme partenaire Eros Ramazzotti. C'était très fort. Très connu, ça terrain là-bas, Clarence Seedorf, que vous connaissez très bien, que c'était avec Milan ici dans cette période, un producteur discographique qui était manager de pilote. On a créé une équipe très forte parce que dans les premières 3 années, on a gagné 2 fois à Monaco en GP2, et dans ce moment-là-bas, il n'avait pas la reverse grip, donc c'était un vrai challenge pour une équipe créée par zéro. Première année, on avait Gianmaria Bruni encore et Andreas Zuber. Et la deuxième année, Pastor Maldonado, qui après, j'ai géré un FA et un pilote japonais, Koirat, de programme Toyota Junior. Et la troisième année, Mike Conway, qui après, c'est devenu un pilote très important dans l'endurance, champion du monde d'endurance avec Toyota. Et le premier pilote chinois, donc Hoping Tung, que j'ai rencontré la semaine passée en Chine. Et on a fait, je me souviens bien, avec Conway Hoping Tung, première et deuxième à Monaco aussi en 2008. Après, j'ai eu l'expérience, différentes expériences, mais la personne, je voudrais dire qu'il a, pour moi, une place très importante dans ma carrière, c'est sur Frédéric Vasseur. Je travaillais désormais 12 ans avec lui. Et pour Hard Grand Prix et après pour Spark, c'était fantastique comme projet de zéro, créer la première monoplace complètement électrique, Formule 1, après le projet Extreme, et je l'ai suivi à Sauber. Et après, grâce à notre propriétaire Phil Rausing, maintenant avec Audi, j'ai eu la chance de progresser dans ma carrière. Le travail, c'est pas changé. Il faut être au bureau le premier, être le dernier à laisser et être disponible pour les personnes tous les jours. Et je dis toujours, si je peux parler un peu librement, j'ai toujours dit à les personnes avec moi que la chose plus importante dans le travail, c'est de prendre des décisions. C'est toujours mieux de prendre une mauvaise décision, mais de la prendre, que de ne pas prendre aucune décision et de laisser les choses comme ça dans l'air. Donc, mon travail principal, c'est d'être disponible, donner des réponses à mes collaborateurs. Ça, c'est la chose plus importante. Et je pense que c'est une caractéristique que j'ai toujours eue. Et j'ai la chance de travailler avec des personnes très importantes, pas parce qu'ils sont importants. C'est important parce qu'ils ont des capacités. Et ici, c'est toujours un travail d'équipe. Il n'y a pas une personne plus importante qui doit donner une contribution plus importante de l'autre. C'est un puzzle que pour être équilibré, il faut que chacun Il travaille en même vitesse et dans sa propre contribution. Et mon travail, c'est de garder cet esprit et de donner la direction de travail, mais de laisser aussi chaque personne avancer, être responsable, mais surtout comprendre qu'il a la responsabilité, prendre aussi décision dans son propre domaine. Donc, de combiner ce qu'il est là. Un peu l'autonomie personnelle dans le travail, dans un cadre général de coordination que c'est mon travail à donner.
Ça est intéressant de voir qu'il y a plusieurs boucles qui se sont formées chez vous. Vous avez commencé avec l'amour du sport moteur, vous êtes tourné vers tout ce qui est le droit pour au final pouvoir avoir l'immense chance de lier vos deux passions au quotidien. Donc ça, c'est une première boucle et aussi une deuxième, le premier pilote en GP2, le premier pilote chinois en Formule 1 aussi. Donc là aussi, il y a une certaine boucle qui s'est fermée, d'autant plus qu'on a la chance de parler avec vous après ce week-end en Chine. Justement, ce week-end en Chine, vu que ça fait quand même 5, presque 6 ans maintenant qu'on n'avait plus, enfin, que vous n'aviez plus roulé en Chine, au-delà de la course en tant que telle, comment s'est passé le retour? Comment c'était le week-end en Chine? Est-ce qu'il y avait des changements par rapport à avant? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Pour nous, c'était un week-end extraordinaire dans plusieurs sens. Extraordinaire dans le vrai sens de le mot, donc pas ordinaire. C'est sûr que grâce au fait que nous avons le premier pilote chinois en F1, on avait attendu cette Grand Prix depuis le début de notre relation avec Zhou Guanyu, depuis 3 ans. C'était aussi 5 ans que le Grand Prix, la Formule 1, n'était pas plus en Chine. Donc, il avait une attente énorme. Nous avons approché, pas le week-end de course, mais toute cette période avec une planification très importante. On a planifié des activités dans les 2 semaines avant le Grand Prix, et toutes les activités de promotion, des événements collatéral avec notre partenaire et tout en plan média extrêmement important pour utiliser au mieux cette opportunité, que c'était une opportunité unique. J'ai dit le premier jour qu'on est arrivé au circuit que quand un moment, c'était un moment historique, une page historique, je pense pour la Formule 1, pas seulement pour notre équipe, d'être à Shanghai avec le premier pilote chinois en F1. Et nous avons eu un retour incroyable. Pensez que, par exemple, dans toutes les activités qu'on avait faites, le mardi, on a lancé un film sur la carrière de Zhou Guanyu et sur toutes les 3 dernières années avec notre équipe, un peu un documentaire pour pas parler seulement de lui, mais aussi faire connaître la F1 en Chine. On avait à la première 1 400 médias accrédités et maintenant le film s'appelle The First One. C'est dans la première position de box-office en Chine. Donc, c'était extraordinaire le retour. On a fait énormément d'activités médias dans le week-end, mais le chaleur, la passion de fans chinois, c'était incroyable. Vous avez vu, je pense, dans la course, toutes les tribunes. C'était pour la première fois avec une touche de verre. Donc, c'était incroyable. Le fan, ils ont acclamé Guan Yu chaque fois qu'il sortit de boxe ou avec la voiture. Et après, le final de la course, c'était un moment qu'il a touché tout le monde. Quand il est arrivé, la F1, il a permis à lui d'être avec les 3 pilotes sur le podium, d'être là-bas. Il était vraiment protagoniste. Et je pense que c'était un moment historique qu'il a montré dans un côté que la F1, c'est vrai, c'est technologie, haute technologie, la technologie plus à l'avant-garde dans l'automotive, mais il y a un côté humain, sportif, et c'est extrêmement important. Et nous avons montré ce côté avec Guan Yu, avec tout tu sais, l'attention, le support de notre fan. Donc, je pense que c'était quelque chose d'extraordinaire, comme j'ai dit. Et en même temps, pour nous comme équipe, c'est vrai qu'on n'a pas marqué des points dans les premières 5 courses. Donc, on avait et on a toujours une pression énorme parce qu'on a montré d'avoir un potentiel technique pour marquer les points depuis la première course en Bahreïn, mais on n'était pas capable de matérialiser ça avec des points. On a eu des problèmes d'affiabilité sur les pit-stops qu'on n'a pas encore solutionné 100%. Et après, on a eu des problèmes d'affiabilité, comme dimanche avec Valtteri, on a cassé un moteur, donc il a empêché nous de marquer des points. Le potentiel, c'est là-bas, mais comme toujours, il faut non, pas seulement avoir un potentiel, en Formule 1, les résultats sont très importants. On travaille énormément sur le développement de la voiture pour continuer à améliorer notre paquet parce qu'on est sûr qu'on a l'opportunité de se battre pour le point. La prochaine opportunité, c'est Miami pour nous, mais il ne faut pas s'arrêter. La F1, c'est un sport où, jour par jour, il faut travailler plus fort de tous les autres parce que il y a vraiment un écart marginal entre les équipes de la sixième à la dixième. On parle d'un dixième de seconde dans chaque course. Donc les détails, ils font la différence. Et il faut que mettre en exécution un week-end parfait au niveau pilote, au niveau de gestion de la course, au niveau de stratégie, pas seulement au niveau de perfo voiture, pour marquer des points. Je pense que l'F1, c'est devenu extrêmement challenging pour tout le monde. On a vu Hamilton qu'avec un petit erreur en qualif dans le virage 14, il n'est pas entré dans la Q2. Donc, pensez combien c'est difficile pour toutes les équipes. Ça, ce n'est pas une excuse, mais veut dire que le niveau, c'est si haut qu'on ne peut pas se permettre aucune faiblesse dans aucun area. Et donc, nous, on travaille jour et nuit avec notre équipe pour améliorer. Les résultats ne sont pas encore là-bas, mais j'ai la confiance qu'on sera capable de marquer des points. Et on a notre chance à Miami avec un sprint format week-end, comme il était en Chine, qui donne une opportunité additionnelle de marquer des points dans la course sprint samedi.
Et au sujet de Miami, est-ce qu'il y a des changements prévus au niveau des voitures ou est-ce que vous gardez ou est-ce qu'il n'y a pas encore de petites améliorations?
À
Si
Miami,
vous
on
pouvez dire,
aura.
vous n'êtes pas obligé de dévoiler vos cartes.
Je pense comme toutes les équipes à Miami, on va introduire un différent aileron arrière parce que c'est un piste qui a des exigences différentes. Dans la résistance aéro, il va jouer peut-être un rôle. Donc, on a un track spécifique, comme on dit en F1, aileron arrière pour cette piste. Et après, on aura à Imola encore un gros développement. Toujours en F1, la partie plus importante, c'est le fond de la voiture. Si nous, on travaille là-bas avec une troisième spécification, pensez qu'à partir de la première course, on a déjà introduit, on va introduire à Imola le troisième spec, troisième type de fond. On a fait le premier fond de Bahreïn, c'était déjà en développement après le test. Le deuxième, on l'a introduit au Japon. Et le troisième spec sera à Imola, en même temps qu'on a eu un nouveau aileron avant à Melbourne. Et on a toujours de petits composants pour adapter la voiture à l'exigence spécifique de chaque circuit, surtout au niveau de aéro. Donc, on n'a pas un paquet important à Miami, mais on a aussi toujours deux, trois courses qui sont nécessaires pour comprendre et utiliser au maximum le potentiel de nouveaux paquets qu'on amène en piste. Donc, je pense que Miami, après la bonne course en Chine, c'est une bonne occasion. On a fait dans la sprint qualifying session 9e et 10e avec Valtteri et Joe. Et après Joe, il est arrivé 9e dans la sprint race. Valtteri, il est entré en Q3 dans la qualif pour la première fois dans l'année. Et quand il a retiré la voiture, il était là-bas à se battre avec Hülkenberg, il a terminé dans les points. Donc, il faut repartir de ici, améliorer, c'est sûr, mais on part d'une base. Au moins, c'est compétitif avec notre compétiteur direct pour essayer de faire des points.
On a parlé de ce week-end extraordinaire en Chine, du week-end qui va vous attendre maintenant, donc un jour, dans un peu plus d'une semaine, à Miami. Vous avez aussi mentionné le fait que vous-même, vous avez aidé à l'organisation de différents rallyes. J'aimerais bien savoir de vous, comment c'est le travail des organisateurs d'un grand prix et quelles sont les grandes différences qu'on a lors d'une organisation d'une course de rallye et une course de formule ou d'endurance?
Il y a deux choses très importantes qui changent. Bon, le circuit, c'est sûr, c'est un périmètre fermé. Donc, c'est beaucoup plus facile parce que, il y a un circuit permanent. C'est une chose différente. Il y a un circuit dans la ville parce que là-bas, il y a tout en organisation pour mettre en place les circuits au niveau de l'infrastructure. Mais le circuit en permanence comme Spa, c'est sûr que l'organisation, c'est plus facile. Et au niveau de, je veux dire, de promotion, d'organisation, ils prennent beaucoup moins de temps. Pour l'organisation d'un rallye, la chose plus difficile, c'est de trouver les accords avec toutes les autorités locales pour utiliser les routes pour le rallye. Et donc, il s'agit de trouver les accords avec les municipalités, faire la propre manutention et préparation de la route, parce que les voitures qu'ils passent, ils ont besoin au moins d'avoir un bon fond, une bonne préparation. Il y a tout l'aspect sécurité publique, que c'est extrêmement important. Donc, penser que pour un rallye, il y a besoin de quasiment 2000 personnes comme commissaires dans le parcours. Pour la majorité, sinon la totalité, sont de bénévoles. Donc, c'est une organisation très importante. Il y a moins de possibilités de générer de chiffre d'affaires parce qu'il n'y a pas normalement de tickets, donc de billets ou des tribunes. Donc, pour générer le chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus compliqué et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de trouver de sponsors pour le rallye. Et ce sont deux choses différentes. Pour moi, qu'est-ce qu'il manque au rallye? Il manque d'avoir des arrêts attractifs pour le public, comme il a la F1 avec le Paddock Club, avec la Fanaria. C'est ce que nous avons introduit en 2003 en Sardaigne, de créer un peu une sorte de paddock, parce que le service park, c'est plutôt des arrêts de boxe, mais on a besoin de trouver des arrêts où le spectateur peut être en contact direct avec les pilotes, avec les voitures, et en même temps d'avoir la possibilité de avoir une course que c'est attractif pour les télévisions, parce que maintenant, sans bon produit télévisif, c'est impossible d'avoir les sponsors. Donc, le parcours, c'est très important. Il faut trouver toujours un bilan entre spectacle, côté télévisif, et de ne pas avoir quelque chose que c'est trop loin de le concept de rallye, que c'est toujours en course d'endurance, dans des routes normal, ouvert. Donc, je pense que le travail de promoteur de rallye, dans certaines manières, c'est beaucoup plus compliqué si les moyens sont inférieurs. De l'autre côté, l'organisation d'un Grand Prix d'F1 pour un circuit, c'est un travail énorme parce que quand on doit gérer entre 300 et 400 000 personnes dans un week-end avec tous les services à mettre en place, c'est beaucoup compliqué et sans le support de gouvernement, de l'autorité locale, il devient quasiment impossible. Donc deux choses très différentes avec des similarités, mais les deux impliquent une grosse organisation qui commence normalement le 12 mois avant la course.
Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien me tourner un peu plus sur l'aspect Formule 1, plus votre aspect au quotidien, entre guillemets, on va dire, de team principal. Et sachant que vous travaillez pour Sauber, j'aimerais bien vous demander quelle est votre relation, s'il y en a une, avec Peter Sauber en tant que tel. Est-ce que vous avez encore l'occasion de le fréquenter? Est-ce qu'il vient peut-être encore de temps à autre à une ville, ou est-ce qu'il s'est retiré totalement et carrément?
C'est sûr que, en 2015, Finn Rousing a acheté l'équipe Sauber. Et de ce moment là-bas, Peter Sauber, ce n'était pas plus le propriétaire. Il n'a pas eu un rôle actif dans l'équipe. Mais c'est Peter Sauber qui l'a créé, cette équipe. Donc, c'est une personne que nous, on respecte beaucoup. Et quand il a l'occasion pour lui de venir à le circuit, il vient, il est bienvenu. Je pense que l'année dernière, il est venu à deux, trois courses. Et cette année, je pense qu'il viendra entre Imola, je pense Imola, la première course. C'est toujours le bienvenu. C'est sûr, il n'a pas un rôle actif, mais nous, on a encore le nom Sauber. C'est sûr que c'est un héritage important. Surtout pour les personnes qui travaillent à une ville, plutôt dans le département de production où il y a la majorité des employés locaux. Il faut jamais oublier, en F1, c'est le patrimoine de chaque société, parce que ça, c'est un peu la base aussi de la culture d'équipe. Mais c'est sûr que maintenant, l'équipe, c'est une équipe que. Il a son propre chemin. Audi a annoncé le mois de mars l'acquisition de 100% de Sauber Group et on est dans un procès de transformation extrêmement important qui dans tous les areas pour passer d'une équipe indépendante à devenir une équipe constructeur à partir de 2026. Pour vous donner un peu de chiffres. Nous, comme Sauber, on était toujours entre 500 et 530 personnes pour la partie châssis. Quand les top teams, ils ont plus de 1000 dans le département châssis. Donc, vous pouvez imaginer quelle est la transformation qu'on doit faire dans les prochaines 2-3 années, en plus de celle qui concerne la partie technologique. Parce que c'est sûr, il y a encore entre les équipes qu'ils ont au milieu et les top teams un gros gap d'infrastructure. Parce que les top teams, ils ont eu la chance d'investir sans aucune limitation dans les années passées. Et la plus grosse différence maintenant, ce n'est pas dans le cost cap, donc le budget pour la construction de voitures, mais c'est plutôt la partie infrastructure qui a un gap encore très important. Et donc, maintenant, on est en plein procès de transformation dans un plan de recrutement extrêmement agressif parce qu'on a besoin de développer la structure dans les prochaines 2 années et au même temps d'investir dans la technologie avec une vision, pas 2, 3 ans, mais c'est sûr de faire aussi des investissements sur le long terme. Donc, en phase que je voudrais dire très excitante, en même temps très difficile parce qu'on a la gestion aussi de ces deux championnats. Donc, ce n'est pas un travail qu'on fait en parallèle, c'est un travail qu'on fait en même temps. Et on est encore en structure petite. Donc, le charge de travail sur chacun, c'est vraiment, vraiment important.
C'est intéressant de savoir que si on voit que, enfin, si on sait que Sauber est en Suisse, connaissant un peu la situation en Suisse avec une partie française, une partie allemande, une partie italienne, maintenant vous avez la partie italienne avec tout ce qui était Alfa Romeo, maintenant vous allez avoir la partie allemande avec Audi et notamment le groupe VAG. Et j'aimerais bien vous demander en quoi est-ce que votre travail a changé ou en quoi la relation est-elle différente avec Audi, comparé à ce qu'elle était avec Alfa Romeo, notamment.
C'est totalement différent pour une raison, parce que Alfa Romeo, c'était un sponsor de l'équipe, donc il n'avait pas aucune implication dans la gestion de l'équipe. Avec Audi, il est devenu actionnaire minoritaire l'année passée, maintenant il va devenir actionnaire majoritaire, et aussi nous, on sera l'équipe Audi. En F1, donc on va comme Ferrari, comme Mercedes, avoir la partie moteur et la partie châssis. Donc, ce n'est pas une modalité différente de travail, mais c'est une relation totalement différente, un avec un sponsor, l'autre avec l'actionnaire. Et on a la chance d'être choisi par Audi pour devenir sans structure pour entrer en F1. C'était la première fois pour le groupe Audi Volkswagen d'entrer en F1. Ce sera le seul programme sportif Audi dans le motorsport avec un engagement total et qui demande, c'est sûr, un niveau d'investissement et des ressources humaines, pas seulement financières, énormes, mais c'est un projet très important pour une très longue période. Et donc, les interactions, les échanges, ils sont quotidiennes à tout niveau, parce qu'il s'agit de mettre en place l'équipe Audi en F1. Donc, avec une interaction et aussi, je veux dire, une connexion plus importante avec Audi Formula Racing, c'est le département moteur à Neuburg, côté Ingolstadt, et aussi avec Audi pour toute la partie de brand promotion, parce que c'est sûr que l'un des objectifs plus importants, c'est pour Audi d'utiliser la plateforme de communication marketing F1 au mieux pour la promotion de la marque Audi dans tout le monde. Donc, il y a un côté de connexion technique avec Audi Partie Moteur, mais aussi avec Audi AG, pour tout ce qui est le brand identity, le team identity et toutes les activités marketing, communication promotionnelle de l'équipe F1 en faveur de la marque Audi.
Ok, merci. Je viens de voir qu'on doit se quitter déjà vers 17h ou à 17h et qu'on ne peut pas récupérer le temps. Juste pour conclure, j'aimerais bien vous poser quelques questions courtes et si vous pouvez répondre en une ou deux phrases maximum, la première chose qui vous vient en tête. Donc, c'est 15 toutes petites questions. La première, c'est vos trois plus belles rencontres dans le milieu du sport automobile.
Je veux bien dire, toujours dans mon cœur, les personnes, ils ont une valeur dans la vie. Et Jules, il a une valeur. Ouais. Je veux pas dire plus.
Des habitudes bien à vous lors d'un week-end de grand prix ou de course?
Moi, mon habitude, c'est de très important de avoir tout sous contrôle. Donc, c'est que c'est le programme pour moi, tout le rendez-vous, le briefing technique. Donc, d'avoir vraiment tout sous contrôle. Donc, l'habitude pour moi, c'est de vérifier mon agenda avec la personne qui s'occupe de ça dans les week-ends avant la course et après d'être toujours on time, parce que c'est important aussi de donner à toutes les personnes ça, et de montrer le respect pour le travail de tout le monde. Donc pour moi, c'est plus qu'un de différents rituels, c'est de bien être aligné avec toutes les activités à faire et donc de vérifier tout en avance chaque fois.
Sur une touche plus humoristique, est-ce plus simple d'accorder sa garde-robe avec du rouge ou avec du vert?
Moi, le couleur qui fait nous gagner, c'est le plus beau.
C'est vrai.
Peut-être le gris dans le futur.
Votre grand prix préféré au calendrier?
Monte-Carlo. Monte-Carlo, parce que quand j'étais pas petit, parce que mon premier Grand Prix, c'était Imola en 91, mais en 81. En 92, j'étais avec un ami de l'école à Monaco. On avait seulement le billet de train et rien d'autre. On a dormi à côté du cimetière, en face de l'entrée du cimetière, 3 jours. Et on avait une petite place à la pelouse rocher, qui c'est en bas de la roche rocheur. Et c'était un Grand Prix fantastique avec une bataille entre Ayrton Senna et Nigel Mansell pour toute la course. Mais je me souviens toujours quand je vais à Monaco. Où je suis parti.
Plutôt circuit urbain ou circuit traditionnel?
Circuit traditionnel comme Spa-Francorchamps.
En tant qu'Italien, Monza ou Imola?
Monza, parce que c'est vraiment le temple de la vitesse. Donc, Monza.
Votre aéroport préféré?
Mon aéroport préféré, il n'y a pas. J'espère un jour d'avoir comme aéroport préféré un aéroport à côté d'une destination touristique pour mes vacances. Donc, choix entre la Grèce, le sud de l'Italie, mais quelque chose qui me va amener avec ma famille et mon petit-fils pour des jours de relax.
Vos meilleurs amis dans le paddock?
Plusieurs. J'ai un journaliste qui est toujours, je le connais depuis de, l'année 2000, Roberto Quinquero, qui est pour Sky Italy, qui est aussi le parrain de mon fils et mon témoin à mon mariage. Mais j'ai plusieurs amis, Frédéric Vasseur, James Walls, beaucoup dans les équipes au tout niveau, mécaniciens qui ont été dans mon. Équipe en GP2, qu'ils ont maintenant de chef mécanicien dans des autres équipes. Oh, par exemple, Xavier Marcos Padros, qui est nos ingénieurs, chef ingénieur de Charles Leclerc, qui était mon performance ingénieur en GP2. Mais Stefano Domenicali aussi, une relation humaine avec lui, pas seulement professionnelle, et c'était pour moi toujours une personne avec qui je peux partager idées, sentiments.
La prochaine, c'est ce qu'il faut absolument éviter lors des week-ends de Grand Prix.
De se paniquer.
Et les derniers mots que vous dites aux pilotes avant le début de la course?
Parle pas beaucoup avec les pilotes jusqu'avant la course parce que c'est en préparation qu'il faut faire avant. Mais je demande toujours le feedback qu'ils ont dans le tour d'installation après d'aller dans la grille de départ. Parce que ça te donne le feedback si les pilotes se calment ou pas, pas seulement si le setup de la voiture il est correct ou pas. Et de là-bas, je pars avec des considérations pour donner la confiance au pilote qu'il peut faire une bonne course. Parce que la confiance, c'est la chose plus importante pour les pilotes. Il ne peut pas changer la voiture après la qualif, il peut changer l'attitude mentale du pilote.
Et quelques mots de motivation pour les jeunes.
Pour les gens, pour moi, je viens d'un petit pays de 2000 personnes. Mon père, il avait un petit outil de faire des réparations d'électroménager. C'était une famille normale. J'ai toujours rêvé de travailler en FA et je pense que mon histoire, il montre qu'avec beaucoup de travail, avec détermination, avec humilité, on peut vraiment attendre, puisque c'était seulement un rêve quand on était jeune. Je pense que la seule réponse, c'est de travailler le plus possible, de jamais renoncer à ses rêves.
Est-ce que vous avez éventuellement le temps de prendre une dernière question du public?
Plaisir.
Bonjour, je peux poser ma question?
Oui, bonjour.
Bonjour, déjà merci d'avoir pris le temps d'être avec nous en ce milieu de saison de Formule 1. Du coup, ma question, vous avez déjà un petit peu parlé des changements avec Audi, mais pensez-vous que cela va marquer une nouvelle ère dans l'écurie, mais aussi dans la Formule 1?
Je pense que l'Audi, c'est très important, pas seulement pour le groupe Sauber, mais sera très important pour toute la Formule 1. C'est un constructeur en marque premium qui a toujours été extrêmement compétitif dans toutes les catégories sport, mais surtout qu'il a promové de nouvelles technologies. Il a utilisé le sport pour développer des technologies qui après sont devenues des bénéfices. Pour tous, à commencer de la traction intégrale 4, le moteur diesel qu'il a gagné pour la première fois avec un Drôme du Mans et plusieurs des autres choses. Donc, je pense que toujours quand il y a l'engagement dans un sport, dans une marque importante de l'automotive, comme il a été pour Mercedes, il est arrivé en F1, comme il sera. Si pour Ford avec Red Bull, c'est toujours une nouvelle très importante. Donc, je pense que l'arrivée d'Audi, si j'ai bien compris votre question, c'est de bénéfices énormes pour tout la F1 et il va aider aussi à promouvoir encore plus notre sport.
J'aurais juste une petite question. Quel est votre sentiment quand les feux s'allument ou s'éteignent avant la course et quelle est l'ambiance dans le paddock? Est-ce que c'est plutôt on se regarde tous en mode requin ou c'est plutôt fun?
L'ambiance fait comprendre qu'à la fin, la F1, c'est un petit village de 1500 personnes qui travaillent ensemble, qui passent la plus grosse partie de sa vie ensemble. Donc, il y a une grosse rivalité, mais toujours, c'est dans une bonne ambiance. On partage notre passion, on partage notre travail. C'est sûr qu'il y a des rivalités, plutôt, je voudrais dire au niveau de team principal, parce que c'est sûr qu'on a des égos, non, pas petits. Donc, vous pouvez voir une rivalité, mais quand il s'agit de prendre des décisions pour l'intérêt commun, on travaille toujours ensemble. Donc, il y a une rivalité, mais c'est une rivalité que je trouve plutôt positive. On peut faire une dernière question?
Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut poser une question?
Je pose-moi une question. Sinon.
Tant qu'on parlait de Stoffel Vandoorne, en dernière question avant de conclure, comment est-ce que lui, il a évolué depuis que vous le connaissez en tant que jeune pilote jusque maintenant en tant que champion du monde en Formule 1?
Stoffel était déjà un pilote très mature quand moi je l'ai rencontré en GP2 en 2015. Maintenant, il y a une grosse capacité parce que lui, par exemple, cette année, il est pilote en Formule 1, il est pilote de réserve de Aston Martin en Formule 1 et en même temps, il est pilote officiel Peugeot dans l'endurance. Donc, il a cette énorme capacité de s'adapter aux différents types de voitures, à différentes modalités de travail. Donc, il est, comme on dit, un peu polyédrique, comme il était dans le passé, Jack Hicks, qu'il est passé de Dakar à l'endurance. Qu'est-ce qu'il s'est évolué? Qu'il est devenu une personne capable vraiment de gérer à 360 degrés. C'est important pour un pilote F1. Pas seulement le pilotage pur, mais aussi l'activité marketing avec le partenaire, mais il a évolué énormément, c'est la capacité de contribuer à le développement de la voiture. Il est énormément apprécié comme pilote de développement et cette capacité, c'est sûr, a été grâce à ses expériences et surtout la détermination, la concentration qu'il met, pas seulement dans les week-ends de course, mais dans toutes les activités avec les équipes avant pour préparer au mieux le week-end.
Ça va. Merci beaucoup.
Merci à vous tous.
Avant.
J'espère que c'était intéressant pour vous. Pour moi, c'était un plaisir. J'espère que mon français, c'était compréhensible. Je ne parle pas bien, mais j'espère que je n'ai pas fait beaucoup de gaffes. D'accord.
Votre français est excellent. Vous n'avez pas de souci à vous faire à ce niveau-là. Et j'aimerais bien vous remercier, vous et votre assistante, de nous avoir laissé l'occasion, de donner cette opportunité de d'échanger avec vous et de votre temps pour répondre à nos questions.
Bonsoir tout le
Bonne
monde. Au
soirée. Au
revoir.
revoir.
Au
Au revoir.
revoir.